La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Sauveur. Au livre du prophète Ésaïe, nous lisons « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. » Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. » Oui, frères et sœurs, la gloire de l'Éternel se lève et sa lumière vient illuminer nos cœurs. En ce jour de l'Épiphanie, c'est le don qui nous est fait, c'est le message qui nous est adressé. Mais ce n'est pas seulement à Jérusalem que l'annonce est faite. Elle n'est pas seulement pour ceux qui se reconnaissent chrétiens, elle est pour toute l'humanité. Tous peuvent en toute liberté découvrir l'amour, la justice et la paix que Dieu nous offre. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous, paroissiens de l'oratoire, hôtes de passage, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance, Dieu aujourd'hui vous accueille. Je vous invite à la prière. Prions. Éternel, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à notre prière. Viens ce matin encore te manifester parmi nous. Viens ouvrir nos yeux et nos oreilles, car si tu ne viens pas à nous, à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Ô notre Dieu, viens dans ce culte, viens illuminer notre esprit. Ta parole est plus précieuse que l'or, que l'encens et que la myrrhe. Ta parole vaut mieux que les honneurs, les richesses, les plaisirs. Alors, ne nous laisse pas. Montre-nous la voie. Fais dans ton amour bienveillant que nous trouvions grâce devant toi. Sois avec nous et fais que nous découvrions les merveilles de ta parole. Amen. Et maintenant, présentons-nous devant Dieu avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Réjouissons-nous au Seigneur. Nous louons l'Éternel. Je lirai tout d'abord le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et je vous invite à poursuivre notre louange en chantant le psaume 98, entonnons un nouveau cantique, le psaume 98. c'est Nous écoutons la loi de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir, car je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Et voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'obéir à cette loi. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu est miséricordieux, il pardonne le péché, il retient souvent sa colère et ne réveille pas tout son courroux. Éternel, ne nous retire pas ta miséricorde. Que ton amour et ta fidélité nous protègent toujours. Auprès de toi se trouve le pardon. N'agis pas envers nous selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté qui sont éternelles. De grâce, pardonne, Dieu bon et indulgent, car tu es Dieu clément et miséricordieux. Nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Il s'est offert pour que nos péchés soient pardonnés, non seulement les nôtres, mais ceux de tous les hommes. Celui qui écoute mes paroles, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. À cause de cette parole et de tout l'Évangile, à vous tous qui cherchez le pardon et qui mettez en Christ votre confiance, il est permis de dire « Le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde, il vous pardonne vos péchés, il vous conduit à la vie éternelle. »
Vous pouvez prendre place. Alors avec grande joie, j'accueille Stéphanie Cabanne, qui a demandé donc de faire une profession de foi parmi nous ce matin. Alors le baptême que vous avez reçu comme enfant, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Et cet amour, il nous laisse la liberté pleine et entière de devenir ou de ne pas devenir disciples du Christ. Donc ce baptême, c'est le signe d'un oui de Dieu pour votre personne. Et la profession de foi que vous allez faire maintenant, c'est une réponse à cette grâce. C'est un oui à Dieu, en qui vous reconnaissez le Père que vous avez dans les cieux. Alors, vous avez d'abord répondu ce oui dans votre cœur, dans l'intimité de votre prière, de votre réflexion, de votre personne. Et puis aujourd'hui, vous avez choisi de le dire publiquement parmi nous. Et c'est vrai que c'est une démarche sincère et vraie, courageuse et engagée. Donc, merci d'être là et d'avoir pour nous, de nous faire ce don de ces paroles que vous allez nous dire. Alors, vous avez d'abord accepté de dire quelques mots sur votre cheminement pour vous nous expliquer comment est-ce que vous vous retrouvez ici. Et donc, c'est un cadeau parce que c'est vrai qu'on ne tient pas forcément à se raconter devant tout le monde, mais c'est une occasion peut-être pour nous de se mettre en route et d'avoir à nous-mêmes notre propre démarche.
Tout d'abord, laissez-moi vous dire ma joie d'être accueillie dans cette communauté. Protestante, je le suis de cœur et par conviction depuis quelques années déjà. Je le suis restée longtemps presque en secret, en me nourrissant de lectures et de réflexions avant d'assister aux offices. Sans bien savoir si j'appartenais à l'Église catholique dont j'étais issue, ou si je pouvais me satisfaire de l'athéisme qui régnait autour de moi, j'ai petit à petit découvert le protestantisme comme une nouvelle voie. Chacun peut rencontrer Dieu de manière différente. En ce qui me concerne, c'est par mon métier, l'étude de la peinture, que j'ai découvert et fait mienne les idées de la Réforme. Ensuite, la fréquentation de ce lieu où nous sommes, où règne la réflexion et l'ouverture d'esprit, a achevé de me convaincre. Après toutes ces années de cheminement, je suis heureuse de marquer par un acte fort mon appartenance à notre communauté. Je vous remercie de m'y accueillir et je ne peux que vous redire ma joie d'être ici aujourd'hui.
Alors un grand merci. C'est vrai qu'à travers notre petite communauté, vous rejoignez une large famille de tous ceux qui cherchent Dieu, la source de la vie, du mouvement et de l'être, comme le dit l'apôtre Paul, dans cette personne de Jésus-Christ, depuis des générations, depuis des siècles, et puis dans toutes les cultures. Alors c'est vrai qu'à travers l'étude de la peinture, vous avez là l'occasion, et le Louvre est plein de ces peintures religieuses, de ces recherches de Dieu aussi à travers les Mésopotamiens ou les Égyptiens, mais c'est moins votre spécialité. Enfin, c'est vrai que dans l'étude de la peinture, ça permet déjà, je pense, profondément de s'ouvrir à des démarches particulièrement sensibles et vraies de ce qui nous anime. Alors, ça vous a mis à bonne école. Nous prions Dieu. Ô Éternel notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Stéphanie. Tu l'as accueillie dans ton alliance et dans ta bénédiction. Qu'avec le Christ, elle devienne jour après jour de plus en plus vivante et source de vie, rayonnante de foi, d'amour et d'espérance dans sa propre existence, mais aussi auprès de ceux qu'elle aime. Amen. Alors, dans la liberté que nous avons, comme vous l'avez très bien exprimé, de réfléchir, de se faire sa propre opinion, vous avez choisi une confession de foi pour dire votre foi. Et ça sera notre confession de foi pour nous ce dimanche. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette confession de foi qu'a choisie Stéphanie.
Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu ? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé de lui comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que la mort. Amen.
Merci beaucoup Stéphanie pour cette confession de foi donc, qui est inspirée de celle du pasteur Pierre Fatt que nous aimons bien effectivement ici. Alors en réponse à cette confession de foi, nous chantons donc le spontané qui est marqué dans les petits livrets. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Stéphanie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Il vous envoie en ce monde pour rayonner de quelque chose d'unique selon votre vocation personnelle. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait briller sa lumière sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne la paix. Oui, notre Père, nous te remercions pour Stéphanie que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie, et plus grande encore est la joie dans le ciel pour ce moment de foi, de confiance en toi et de témoignage courageux. Alors bénis Stéphanie pleinement, ô Éternel, et bénis par elle ceux qu'elle cherche à aider. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Et puis maintenant, nous avons un chant de Jean-Sébastien Bach, Jésus, Beiblet, my Freund, grâce aussi à notre organiste qui a couru depuis la tribune d'orgue pour venir ici avant de recourir dans l'autre sens. Donc merci à vous tous et à Stéphanie.
En ce jour de l'Épiphanie, j'ai retenu, bien sûr, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous invite à chanter dans Louange et prière le cantique numéro 111, « Quelle est au ciel cette brillante étoile ?» Le cantique numéro 111.
Dans la fenêtre.
comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Les mages, ils n'étaient sans doute ni trois ni rois. Ils ne s'appelaient pas Balthazar, Melchior et Gaspard. De la couleur de leur peau, à dire vrai, nous ignorons tout. L'évangile de Matthieu, avec sobriété, se contente d'évoquer des mages en Orient. Des hommes venus d'ailleurs, des païens, étrangers au peuple de l'Alliance. Mais des mages, il en est finalement souvent question dans la Bible. Et on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient présentés sous un jour très favorable. Voilà des hommes qui interprètent les rêves, qui accomplissent des prodiges. Ils sont un peu sorcier, un peu devin. Inlassablement, ils scrutent les étoiles et les astres. Leur art est un mélange fréquent dans l'Antiquité d'astrologie et d'astronomie. Il s'agit en effet d'établir une géographie du ciel, de repérer les constellations, mais aussi de les lire comme autant d'annonces, comme autant de présages, dans la croyance que les grands luminaires sont des êtres divins qui peuvent commander et influencer le destin des hommes. Ces mages, ils sont un peu scientifiques et un peu charlatans. Voilà donc le genre de personnage qui est mis en scène aujourd'hui. C'est en quelque sorte le matin des magiciens, des voyants, et des diseurs de bonne aventure. Oui, ils cherchaient à lire dans les étoiles la destinée de chacun, et ils espéraient peut-être ainsi percer les secrets, les énigmes de l'histoire. On comprend alors que l'apparition soudaine d'une étoile en Orient et suscité à leurs yeux plus que de l'intérêt. Car à l'époque, voyez-vous, on croyait que la naissance d'un grand personnage était marquée de signes célestes, comme pour présager un avenir important et saluer un destin hors du commun. Napoléon Bonaparte lui-même se plaisait à parler de son étoile. Alors, lorsqu'une étoile particulièrement brillante et jamais observée auparavant se mit à briller au firmament, j'imagine que les mages durent se perdre en conjectures passionnées. Les explications ont dû y aller bon train. Pour les uns, c'était une comète. Pour d'autres, la conjonction de Jupiter et de Vénus, que sais-je encore. Et peut-être même que l'un d'entre eux s'est souvenu d'une de ses lectures, une obscure prédiction des temps anciens consignée dans les écritures juives. Souvenez-vous, au livre des Nombres, l'histoire de Balaam, l'homme au regard pénétrant, un mage lui aussi. Il se trouve qu'il est convoqué par Balak, le roi de Moab, pour maudire les fils d'Israël. Mais voilà, il ne peut pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui a parlé au cœur et il ne peut que bénir. Rappelé plusieurs fois par son maître, il ne parvient toujours pas à maudire. Au contraire, son chant s'élève si pur qu'il parvient jusqu'à nous. Et voilà qu'il dit, « Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. » Oui, l'oracle de Balaam annonce l'étoile de la rédemption, celle qui un jour se lèvera sur ceux qui gisent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette étoile marquera l'ouverture de l'ère messianique. Oui, une étoile naîtra, et voilà qu'une étoile est née. Alors il est bien possible que les mages se soient dit que la prophétie était en train de s'accomplir sous leurs yeux. Jamais pareille étoile n'avait été repérée, ce roi devait être réellement exceptionnel. Mais on le sait bien, c'est même le béaba de la méthode expérimentale, une hypothèse ne vaut que d'être vérifiée. Alors, n'y tenant plus, les mages décidèrent d'entreprendre le voyage vers la Judée pour aller voir celui qui venait de naître. Il fallait partir à la recherche de celui qui serait peut-être la nouvelle star. Mais à dire vrai, sans en être sans doute conscient, ces personnages viennent de retrouver deux affirmations bibliques. La première, au commencement, c'était le quatrième jour. Dieu a créé dans le ciel des astres, des grands luminaires, pour qu'ils servent de signes, pour marquer les jours et les années, pour indiquer les fêtes, littéralement pour marquer les rendez-vous. Eh bien, les mages ne veulent pas rater le rendez-vous. Ce qu'ils cherchent dans le ciel, ben, ils n'en savent trop rien au juste. Mais en tout cas, ils sont travaillés par la quête de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis, ils renouent avec une deuxième affirmation de la Bible. À savoir que finalement, on ne s'approche jamais des choses d'en haut par pur désir de science ou de maîtrise. Hubert Reeves, l'astrophysicien, le rappelait encore il y a quelques jours dans un grand quotidien en déclarant « L'histoire de l'univers est l'histoire de chacun d'entre nous. Les astres, si éloignés soient-ils, renvoient toujours à des personnes. Il y a peut-être un accord mystérieux entre le cosmos et l'être humain. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? » C'était déjà la question posée à Dieu par le psalmiste. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que En contemplant cette étoile, les mages se sont engagés sur la piste d'un fils d'homme, d'un fils de roi. Oui, ils sont partis en suivant l'étoile au grand large, et sur leur chemin, ils font étape à Jérusalem, dans ce pays de Judée. Oui, il était normal que leur recherche les conduisit là, au pays des enfants de Jacob, le peuple de la promesse. Et il était également légitime de penser qu'Hérode pouvait être le père de l'enfant destiné à inaugurer un règne de justice et de paix. Mais en fait, les mages trouvèrent à Jérusalem un roi plutôt mal luné, dépité d'apprendre une telle nouvelle. Heureusement, les spécialistes de la religion, les théologiens de l'époque, les grands prêtres et les scribes, purent les orienter vers Bethléem, conformément aux Écritures, puisque dans le Saint-Livre, il est attesté que c'est à Bethléem que doit naître le Messie. Oui, laissés à leurs propres ressources, en dépit de toute leur bonne volonté, de la droiture de leur caractère, en dépit des lumières de leur raison, peut-être les mages ne seraient-ils jamais parvenus au but. Mais voilà que la parole de Dieu les rejoint. Et par la bouche du prophète Michée, il leur est donné d'arriver, en suivant l'étoile, au lieu où repose l'enfant avec sa mère. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'opposé, Hérode et ses conseillers religieux sont troublés. Ils connaissent les Écritures à la lettre, mais cela ne change rien pour eux. Ils ne bougeront pas. La prophétie de Michée les réduite à l'état d'information utile pour gérer le pouvoir et ses crises. L'appartenance à Dieu, voyez-vous, n'est jamais vraiment ce que l'on croit. Hérode, le roi des Juifs, ne pense qu'à tuer et qu'à maintenir sa tyrannie, avec la complicité d'ailleurs des spécialistes de la Bible. En revanche, Des païens aux sciences plus que douteuses arrivent à Bethléem et ce sont eux qui contribuent à manifester le roi des rois. Alors, frères et sœurs, ce conte, cette petite légende, prend une dimension nouvelle. L'être humain est en quête, mais c'est un autre qui lui donne la réponse. Les mages, ces païens, ils ont soif de vérité, ils la pressentent. Ils se mettent en route pour l'atteindre, prennent des risques, ils s'informent, ils n'épargnent pas leurs efforts pour la trouver. Ils incarnent finalement tous ces êtres humains en quête de sens à donner à la vie. La vie et la vérité, précisément. Quand enfin ils les trouvent, conduits par l'étoile, ils s'en réjouissent, comme de ce qui est donné par pure grâce. Prosternés devant l'enfant, les mages sont au bon endroit, au bon moment, et ils nous y emmènent. Bien plus encore, ces mages se mettent à prophétiser. Une trentaine d'années avant que Jésus n'entre dans son règne, ils annoncent déjà ce que le terme de l'Évangile proclamera à la face du monde : Jésus est bien roi à Jérusalem. Ceux qui détiennent le pouvoir politique et religieux, Hérode, les prêtres, les scribes, iront même jusqu'à mettre ce titre au-dessus de sa croix. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Alors voyez-vous, chers amis, on peut dire que les mages forment le détachement précurseur de l'Évangile. Et depuis la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, c'est désormais la même question qui se pose. La même question que nous posent tous ceux qui sont en quête de vérité. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est celui qui peut nous combler d'une joie à nul autre pareille? À cette question, il n'est pas de réponse évidente. Certes, nous avons pour nous aider le témoignage de l'Écriture. Nous avons le ciel étoilé qui chante la gloire du Créateur. Nous avons la voix de nos rêves et l'appel de notre conscience. Nous avons encore la beauté du monde et la souffrance des hommes. Car à ceux qui le cherchent finalement, tout parle de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Avant toute autre chose, quand on a décidé de trouver une réponse à cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, il faut, comme les mages, faire ses bagages et se mettre en route. Il faut accepter de se déplacer, de se laisser déplacer. Et nous ne connaissons pas plus que le bout du chemin. Nous ne savons pas où pourra nous conduire cette quête de Dieu, mais nous savons qu'il faut se lever et partir. Alors, frères et sœurs, en ce début d'année, je vous invite au pèlerinage et je vous souhaite bonne route. L'étoile de la grâce, elle est là, elle est née, elle est là pour vous conduire. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 308, « Confie à Dieu ta route ». Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5, le numéro 308, « Confie à Dieu ta route ».
vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Donc d'abord un grand merci à Richard Cadou. Donc je t'attends avec impatience pour qu'on puisse faire équipe ensemble afin que l'oratoire, eh bien, puisse, que cette église géniale qu'est l'oratoire, puisse le mieux possible nourrir, susciter la foi, la réflexion, la prière de chacune et de chacun. Alors bienvenue à toi, bienvenue donc à Claude, ta femme. Donc vous pourrez dans le cœur de l'oratoire, là, dans la croisée du transept, eh bien, rencontrer ceux et celles qui désireraient vous dire bonjour, vous saluer, vous rencontrer donc à la fin de ce culte. À la fin, nous aurons aussi un temps d'accueil donc dans la grande sacristie, dans le chevet qui est derrière cette porte qui est pour l'instant fermée mais qui sera ouverte tout à l'heure. Un grand merci au cœur de l'oratoire donc sous les houlettes de Fabien et d'Alexandre. Donc merci aux choristes et puis ceux qui donc une fois par mois rejoignent le chœur et bien pour animer donc le culte. Alors une pensée pour Claire Alice qui est en face, qui s'occupe de la garderie des enfants. Ce qui permet aux enfants de ne pas être crucifiés tout de suite avec des cultes trop longs et ce qui permet aussi donc, aux fidèles eh bien, de pouvoir suivre le culte et la prédication. Alors en fait, si je parle particulièrement de Claire Alice et de cela, c'est que nous avons grand besoin de volontaires pour prendre leur tour de garde dans la garderie en face une fois de temps en temps et c'est vrai que nous avons besoin de renforcer cette équipe. Alors, ce serait avec reconnaissance que les vocations sont attendues. Alors, en fait, on recrute des femmes, pour des raisons, j'allais dire, c'est vrai que c'est un peu du sexisme, mais c'est une question de confiance aussi. Voilà. Alors, on a une pensée pour Gérard Delin, qui a perdu donc sa mère cette semaine. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas très en forme, donc vous l'avez super bien accompagnée avec ton frère. Et donc c'est toujours bien sûr une tristesse de voir partir ses parents, donc on pense bien à toi Gérard. Il y a des obsèques qui ont lieu je crois mercredi, vous pourrez demander peut-être le rendez-vous précis à Gérard si vous voulez le soutenir dans ce moment. Alors ici même, mardi à 14h30, il y a les obsèques de Madame Janine Stoll, 89 ans. Je pense que je serai tout seul, en fait, pour, j'allais dire, assister à ces obsèques, puisque c'est une dame qui n'avait absolument personne dans l'existence. Donc c'est vrai que c'est aussi une façon peut-être d'entourer les personnes qui sont seules. Mercredi à 14h30, il y a les obsèques de Jean-Diego Brusset, qui auront lieu ici également. Alors après ces nouvelles, voici les invitations de la semaine. Donc il y a un temps d'accueil à la sacristie à la fin de ce culte. Demain soir à 19h30, il y a l'hébreu biblique apprentissage avec Christophe. Mardi à 19h30, il y a le grec biblique débutant avec Aurore. Donc merci à ces deux bénévoles qui permettent de découvrir, d'apprendre les langues des hommes et des anges, comme le dit l'apôtre Paul. Mercredi à 20h, il y a l'étude biblique œcuménique, donc commune avec Saint-Eustache. Alors, c'est alternativement à Saint-Eustache à l'oratoire. Ça sera donc à l'oratoire, aux 4 rues de l'oratoire, à 20h. Toujours le thème prenez et mangez, donc avec deux épisodes des évangiles, un banquet des noces, bien sûr, c'est Jean 2, et puis un pique-nique sur l'herbe, avec les multiplications des pains dans l'évangile selon Marc. Jeudi 19h30, le chœur de l'oratoire, donc avec son chef Fabien, qui recrute. Il y a un nouveau programme que vous commencez à répéter pour un concert Mendelssohn au mois de juin. Donc c'est l'occasion de rejoindre le chœur. Samedi à 18h, un temps de prière silencieuse, donc au 4e étage. Donc on est une douzaine, peut-être un peu plus, à se réunir pour ce temps de prière ensemble, pour apprendre à prier. Alors maintenant, dimanche prochain, il y a le culte, bien sûr, avec l'éducation biblique. Alors nous suivrons en particulier l'histoire de Jean-Baptiste avec son vêtement en poil de chameau. Alors les rois mages, mais puisqu'on n'a plus le droit de dire roi, les mages, et sans doute, moi je pense qu'ils étaient accompagnés avec un chameau. On ne le sait pas, mais on verra donc ce que nous dit le chameau avec Jean-Baptiste la semaine prochaine avec cette éducation biblique. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Alors, en ce deuxième dimanche du mois, l'offrande est intégralement donné à l'association d'entraide, au diaconat de l'oratoire, pour aider donc les démunis.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, ta grandeur, ta magnificence et ta sainteté se manifestent sur tous les hommes. Mais ta grandeur consiste surtout en ce que tu n'as pas voulu nous oublier et nous laisser seuls. En ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, tu nous as donné rien de moins que toi-même et tout ce qui t'appartient. Nous te remercions de ce qu'à la table dressée par ta grâce, nous pouvons être tes hôtes, ici et maintenant. Nous déposons maintenant devant toi l'or, l'encens et la myrrhe de nos existences. Nous déposons également devant toi nos peines, nos fautes, nos erreurs, nos transgressions, nos soucis, nos révoltes. Oui, nous déposons tout notre cœur, toute notre vie, que tu connais infiniment mieux que nous-mêmes. Nous remettons tout entre tes mains fidèles. Prends-nous tels que nous sommes, redresse-nous. Nous qui sommes faibles, enrichis-nous de ta plénitude, nous qui sommes pauvres. Fais resplendir ta bonté sur les nôtres, sur tous ceux qui sont prisonniers, malades, en détresse, victimes des guerres et des affrontements. Donne l'esprit de justice à ceux qui ont la charge de juger, et donne beaucoup de sagesse à ceux qui ont à gouverner le monde, afin que leurs pensées soient tournées vers la paix. Donne-nous lucidité et courage lorsque nous annonçons ta parole. Et maintenant, nous résumons toutes nos demandes en t'invoquant selon les mots qui nous ont été enseignés par Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.